Le monde ne tourne pas rond, ma petite fille. C'est le titre d'un livre sorti en 2017 de Sonia Mabrouk, journaliste franco-tunisienne. Ce livre est une compilation d'entretiens et de correspondances qu'elle a échangées avec sa grand-mère en Tunisie. Et on a donc deux femmes de deux générations différentes qui font part de leurs inquiétudes face à l'actualité. L'islam, les femmes, la laïcité, l'identité, le terrorisme, etc. Et la quatrième de couverture, donc le dos du livre, se termine ainsi. Au bout du chemin, malgré le chagrin et la colère, il y a toujours la lumière. Je me suis demandé, oui, mais quelle lumière ? Et aussi, pourquoi tant d'obscurité dans notre monde ? Le monde ne tourne pas rond. C'est peut-être notre sentiment ce matin. C'est peut-être le constat que nous faisons à chaque fois que nous allumons notre téléviseur ou notre radio. Et c'est un sentiment que partageaient déjà les contemporains de Jésus. Et eux aussi, ils discutaient il y a 2000 ans entre eux et avec Jésus de ce qui fait que le monde ne tourne pas rond. Et que le monde n'est pas aussi pur qu'il devrait l'être. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Marc. Au chapitre 7, nous reprenons ce matin notre série de prédications sur Marc. Marc, chapitre 7. Et nous allons lire les versets 1 à 23. Marc, chapitre 7. Versets 1 à 23. Des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettent jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Certains manuscrits ajoutent laver les lits. Les pharisiens et les spécialistes de la loi demandèrent donc à Jésus : pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres ? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures ? Bande d'hypocrites, leur répondit-il. Ésaïe vous a fort bien décrit dans sa prophétie où il est écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres », ça vous rappelle quelque chose, on a lu ça tout à l'heure. « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. » Jésus ajouta, « Ah, comme vous avez bien réussi à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. » En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, que dites-vous ? Si un homme dit à son père ou à sa mère, « La part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande dédiée consacrée à Dieu ?» Alors, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par votre tradition, celle que vous vous transmettez, et vous faites bien d'autres choses du même genre. Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme ne peut le rendre impur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsque Jésus, ayant laissé la foule, fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent de leur expliquer le sens de cette image. Il leur répondit, « Eh bien, vous aussi, vous ne comprenez pas ? Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire ? De tout ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. Tout cela, en effet, ne va pas dans son cœur, mais dans son ventre. et est évacué par les voies naturelles. Il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Et il ajouta, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Je vais parcourir ce texte en trois temps, selon les trois moments que l'on trouve dans ce passage, un moment où Jésus discute avec les pharisiens, un moment où Jésus s'adresse aux foules et un moment où Jésus discute en privé avec ses disciples. Le premier temps, je l'ai intitulé « Un problème d'impureté ». C'est le diagnostic, c'est ce que je disais en introduction, « Le monde ne tourne pas rond ». Et puis ensuite, nous verrons deux remèdes pour essayer de régler ce problème d'impureté. Le premier, c'est de nettoyer l'impureté de l'extérieur vers l'intérieur, remède numéro 1, ou bien nettoyer l'impureté de l'intérieur vers l'extérieur, remède numéro 2. Et j'ai emprunté à Timothy Keller, au pasteur Timothy Keller, un peu ce plan pour la prédication dans son commentaire sur Marc. Premier point, un problème d'impureté. La controverse entre Jésus et les responsables religieux de son époque se poursuit et s'intensifie. Pourquoi se poursuit ? Parce que nous l'avons déjà vu. Elle était déjà intense dans les synagogues de la région de la Galilée, dans leur synagogue, nous disait Marc au chapitre 1. Et Jésus a déjà eu d'âpres discussions avec les scribes et les pharisiens au sujet de la loi, sur le jeûne, sur le sabbat par exemple, au chapitre 3. Dans notre texte d'aujourd'hui, au chapitre 7, Jésus est apparemment toujours dans ce territoire de Génézareth, où nous l'avions laissé au chapitre 6, après qu'il ait rejoint la rive en marchant sur l'eau. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là le mois dernier, à la grande stupéfaction des disciples. Ces disciples qui avaient passé une drôle de journée, selon leur agenda, vous vous souvenez, et qui ont disparu de la scène, et c'est maintenant Jésus et son agenda que l'on voit à l'œuvre dans cette région de Génézareth. Des responsables religieux viennent donc de nouveau de Jérusalem pour discuter avec Jésus au sujet de la loi, ou plus exactement du respect de la tradition. Versets 1 et 2, des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. Et au verset 5, ils demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres ?» Alors on pourrait se demander, mais ces discussions ne sont-elles pas dépassées ? Après tout, en quoi cela nous concerne-t-il ? Souvenons-nous que dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes religieuses que de personnes non religieuses. À l'autre bout du monde, mais aussi dans notre quartier, il y a des gens qui prient leur Dieu, au singulier ou au pluriel, le mot Dieu, qui lisent des textes religieux et qui accomplissent tout un tas de rituels religieux. Des gens qui veulent être pur devant Dieu ou devant la divinité. Il y a quelques semaines, nous avions ici une soirée interreligieuse. Et nos amis juifs qui étaient présents ce soir-là, et aussi musulmans, nous rappelaient l'importance fondamentale des rites dans leur religion respective. Les rites, les rituels, sont présents dans toute leur activité quotidienne. Le rabbin nous disait, je le cite, « Il n'y a pas un geste quotidien qui ne soit pas lié à un rituel. » Vous imaginez ? Pas un geste du quotidien qui n'est pas lié à un rituel. Quand on se lève, quand on fait ceci ou cela, quand on prend sa voiture, on dit une prière, etc. Beaucoup parmi nos voisins ont une pratique religieuse et se sentent personnellement impurs et essayent, en accomplissant un certain nombre de rituels religieux, de se débarrasser de ce qui souille leur conscience. C'est peut-être aussi votre cas ce matin. Peut-être essayez-vous, par des moyens religieux, de faire face à un sentiment d'impureté. Ou peut-être gardez-vous un sentiment d'échec, de honte ou de culpabilité par rapport à une faute passée. Peut-être essayez-vous de réparer quelque chose dans votre vie que vous avez vous-même cassé ou qu'une génération précédente vous a légué, une tradition en quelque sorte, comme on voit dans le texte ici, qui est peut-être une tradition religieuse ou bien psychologique, une manière d'être en relation, une transmission génétique, familiale, financière, sentimentale, etc. Nous pouvons parfois lutter intensément contre ce sentiment d'impureté qui entache notre vie, notre valeur, notre estime de nous-mêmes. Alors vous me direz, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu ou qui ne sont pas religieux, c'est vrai. Mais personne ne croit à rien. Même le plus farouche des athées croit qu'il ne croit à rien et qu'il n'a pas besoin d'un Dieu. C'est une croyance. Et son athéisme est sa religion, même s'il n'appelle pas ça religion. Beaucoup de Français aujourd'hui disent qu'ils ne croient à rien ou qu'ils n'ont aucune religion. C'est parce qu'ils ont sécularisé le religieux. C'est-à-dire qu'ils se sont débarrassés du vocabulaire religieux, mais ils l'ont remplacé par d'autres mots. Par exemple, ils n'apportent pas de sacrifice à un dieu dans un temple pour obtenir une bénédiction. Mais ils font leurs courses tous les mardis ou tous les vendredis pour économiser le maximum d'argent grâce à leur carte de fidélité du magasin. Et au fond, c'est exactement la même démarche. On pense qu'en accomplissant un acte rituel, on gagne en pureté, on a fait quelque chose de bien qui nous rapporte un avantage. Quel drame lorsqu'à la caisse, vous vous rendez compte que vous avez oublié votre carte de fidélité du magasin. Vous avez manqué à votre devoir. Vous avez un sentiment, ce sentiment d'indignité commerciale. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour être en règle avec le dieu de la consommation à moindre frais. Et vous vous en voulez de votre négligence. Vous avez vous aussi ce sentiment d'impureté du consommateur oublieux. Alors, vous pouvez continuer à faire vos courses le mardi. Eh bien, c'est exactement ce que les pharisiens reprochent aux disciples de Jésus. Ils leur reprochent de faire leurs courses sans carte de fidélité à leur tradition. Regardons cela de plus près. Verset 3 et verset 4. C'est Marc là qui fait un commentaire. En effet, les pharisiens et les juifs, en général, ne se mettent jamais à table sans s'être soigneusement, scrupuleusement lavé les mains. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. Ce n'est pas simplement se laver les mains pour des questions d'hygiène. Il y avait tout un rituel qu'il fallait respecter à la lettre. De même, en revenant du marché, de la grande surface, ils ne mangent pas sans avoir fait leurs ablutions. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. La tradition ici, c'est quoi? C'est tout ce que la carte de fidélité des juifs de cette époque leur rapporte comme avantage et auquel ils ne veulent pas renoncer, sous peine de remettre en question leur mode de consommation religieuse. C'est toutes les règles que les pharisiens ont élaborées au fil des siècles pour les aider à obéir à la loi de Dieu. Quel est le problème? Quel mal y a-t-il à utiliser sa carte de fidélité pour une tradition religieuse? Le problème, dit Jésus, c'est que les pharisiens ont fini par acheter les produits en promotion parce que c'est en promotion et pas parce que c'est bon pour leur santé ou celle des autres. Ils achètent seulement ce qui leur permet de cagnoter, comme on dit, et ils ont perdu de vue le sens de leur consommation. Pire, leur mentalité de consommateurs religieux les amène à s'arranger avec la loi et à faire prévaloir leur droit de consommer moins cher. C'est ce que Jésus dénonce avec l'histoire du corban. Les pharisiens ont mis en place un système de règles qui aboutit finalement à contourner la loi qui demande d'honorer son père et sa mère. Parce que ces règles, ces traditions, dédouanent de cette responsabilité celui ou celle qui voudrait aider ses parents. Par exemple, l'Israélite qui voulait aider financièrement sa maman veuve, par exemple. Et ainsi mettre en pratique le cinquième commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». Eh bien, ce jeune homme se retrouvait coincé parce que la tradition faisait concurrence à la loi. Et le respect de la tradition avait pris tellement d'importance qu'un jeune homme se retrouvait finalement à dire à sa mère « Maman, je suis sincèrement désolé, mais je ne peux pas te donner cet argent parce que je l'ai réservé pour Dieu, selon la tradition. » Cela paraît très spirituel, mais en fait, c'est un détournement de la loi. On finit par respecter des règles humaines et on justifie religieusement de ne pas obéir à la loi. C'est tordu. Jésus dénonce cette hypocrisie avec vigueur. Il dit au verset 9, « Comme vous avez bien annulé le commandement de Dieu afin d'établir votre tradition. » Et au verset 6, il les traite d'hypocrites. C'est pour cela que Jésus dit par ailleurs que les pharisiens culpabilisent les gens de leur époque. Matthieu, chapitre 23, verset 4, les pharisiens, c'est Jésus qui parle, les pharisiens attachent de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais, c'est ça. Les pharisiens ont donc une lourde responsabilité dans la situation spirituelle de leur époque. Quand bien même ce jeune homme imaginaire aurait voulu aider financièrement sa maman, il se serait mis en porte-à-faux avec la tradition et donc avec les autorités chargées de faire respecter cette tradition. Et vous savez quoi? Tout ce système de règles traditionnelles partait d'une bonne intention. D'un désir d'être pur devant Dieu. Je lis quelques lignes de Timothy Keller dans son commentaire. Il dit « Quand vous avez rendez-vous avec quelqu'un de très important pour vous, une première sortie avec la personne que vous aimez, ou un entretien professionnel, vous vous lavez, vous vous brossez les dents et vous vous peignez. Que faites-vous ? Vous vous débarrassez de vos impuretés. Vous ne voulez pas avoir l'air négligé, vous ne voulez pas sentir mauvais. Les anciens rites de propreté, la tradition, avaient la même fonction. Si un individu n'était pas propre spirituellement et moralement, il ne pouvait pas entrer dans la présence d'un Dieu saint et parfait. Jésus était tout à fait d'accord avec les responsables religieux pour dire que nous sommes tous impurs devant Dieu, indignes d'entrer en sa présence. Mais l'objet du litige, du désaccord, portait sur la source des impuretés et sur la façon de s'en débarrasser. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce désir de pureté, noble au départ et en apparence, aboutisse finalement à cette hypocrisie et à cette injustice sociale? Eh bien, c'est la manière dont les pharisiens et tous ceux qui les imitent aujourd'hui essayent de se débarrasser de leur sentiment d'impureté. Et c'est ce que nous allons voir dans les points 2 et 3, avec deux manières opposées pour se débarrasser de ces impuretés. Première manière de se débarrasser de cette impureté intérieure, c'est de nettoyer l'extérieur pour nettoyer l'intérieur. Nettoyer de l'extérieur vers l'intérieur. Le problème des pharisiens, qui est un problème humain, c'est de vouloir nettoyer l'extérieur en croyant que cela va nettoyer l'intérieur. Tout être humain a probablement conscience que quelque chose ne tourne pas rond dans ce monde et dans le cœur humain. Quelque chose qui fait que ce monde est ce qu'il est aujourd'hui. Et face à ce sentiment de malaise intérieur, face à ce sentiment d'impureté, il y a une tâche, quelque chose qui ne va pas dans notre humanité. En général, nous prenons des mesures extérieures. Par exemple, dans la religion, les gens s'abstiennent de manger de tel ou tel aliment, le porc par exemple. Ils observent des périodes de jeûne. Nos voisins observent le mois du Ramadan en ce moment, n'est-ce pas? Les gens accomplissent un certain nombre de prières. Ils mettent chez eux des statues ou des objets censés les protéger de la malchance, du mauvais sort, du mauvais œil, etc. Nous pouvons d'ailleurs avoir le même genre de raisonnement, nous, protestants évangéliques. Si nous venons à l'église, si nous prions, si nous lisons la Bible, si nous ne fumons pas, si nous ne buvons pas d'alcool, si nous écoutons de la musique chrétienne, si nous fréquentons seulement des chrétiens, si nous ne disons pas de gros mots, bref, si nous faisons les efforts nécessaires pour être quelqu'un de bien, alors Dieu verra notre désir de pureté et nous rendra encore plus purs. Il nous récompensera selon nos efforts. Puisque nous faisons nos courses le mardi, nous voulons que notre carte de fidélité religieuse soit créditée du montant que méritent nos efforts. Par des actions extérieures, nous voudrions que Dieu purifie nos cœurs. Problème, ça ne marche pas. Et c'est ce que dit Jésus au verset 14, lorsqu'il appelle la foule, il dit « Écoutez-moi tous et comprenez, rien de ce qui vient du dehors, donc de l'extérieur, et qui entre dans l'homme ne peut le rendre impur ou pur. C'est au contraire ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Il y a quelques semaines, il y avait au Blanc-Mesnil les cérémonies commémorant la fin de la Deuxième Guerre, le jour du 8 mai. Et à cette occasion, comme déjà depuis plusieurs années, les différents responsables religieux, mais aussi le maire, prennent la parole. Et tout le monde réaffirme chaque année la foi en la bonne volonté humaine pour régler une fois pour toutes le problème de la haine, de la violence et de la barbarie. Il y a là un désir de pureté qui est juste et noble, et dont nous savons, nous chrétiens, qu'il sera parfaitement satisfait au retour de Christ. Et chaque année, à l'occasion de cette cérémonie, nous nous inquiétons de la violence grandissante dans notre société. Et à chaque fois, les intervenants, qu'ils soient religieux ou municipaux, proclament leur foi en l'homme qui, par ses actions bonnes, va changer le monde. J'essaye de dire à cette occasion que c'est impossible aux hommes, mais que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, à travers l'œuvre de Jésus-Christ. La commémoration elle-même nous dit que c'est impossible. Je n'invente rien. Je n'ai pas encore osé pointer cette contradiction dont je vais parler dans un instant et qui, à mon avis, a quelque chose de tabou dans notre culture française. Mais écoutez ça. Une fois que les différents intervenants religieux ou monsieur le maire sont passés, ont fait leur discours sincère sur la paix et la lutte contre la violence, qu'est-ce que nous faisons dans cette cérémonie ? Nous chantons. Et qu'est-ce que nous chantons ? La main sur le cœur et le drapeau français flottant au vent. Nous chantons le chant que nous allons entonner avec foi dans quelques semaines lors de la Coupe du Monde de football en Russie. Nous chantons la Marseillaise. Or, que dit notre bel hymne national ? Il dit « Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur, c'est pas moi qui l'invente, abreuve nos sillons. » Vous entendez la contradiction? On tient des discours sur la paix, et je n'ai aucun doute que les personnes qui tiennent ces discours souhaitent la paix. Mais quelques instants plus tard, les mêmes personnes chantent un hymne à la France qui règle ses problèmes de pureté par la violence. Alors, j'ai pas encore osé faire un discours là-dessus. Je pense que je m'exposerai à quelques levées de boucliers.
Mais bon, tu seras plus invité.
voyez, le sang impur dans la chanson, c'est celui de l'étranger qui vient jusque dans nos draps égorger nos filles et nos compagnes, nos fils et nos compagnes. Vous voyez, on n'est pas dans des questions de pureté religieuse là. Et pourtant, nos compatriotes défendent, à leur manière, un sentiment de pureté personnelle en lien avec un sentiment de pureté nationale. C'est ancré dans le cœur humain. Nous avons été créés par un Dieu parfaitement pur. Nous ne pouvons pas ne pas nous poser la question de notre propre pureté. C'est en nous. Et le récit biblique nous révèle que nous avons été créés en tant qu'image de Dieu. Genèse 1 et 2. L'homme est donc pur à l'origine, parce que créé par un Dieu pur. Mais le péché a entaché notre humanité en image de Dieu. Nous ne sommes pas purs depuis Genèse chapitre 3. Alors il reste en nous du bon. Dieu, dans sa grâce, veille à ce que l'humanité ne soit pas aussi mauvaise qu'elle pourrait l'être. Nous sommes contents, par exemple, que les dirigeants américains et nord-coréens se menacent seulement verbalement avec la bombe atomique. Dieu, dans sa grâce, continue de nous aimer, mais ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes, c'est ce que Jésus décrit ici dans notre texte de Marc 7. Nous sommes pécheurs. Et ce constat biblique, chrétien, ce regard, ce diagnostic que Dieu pose sur notre humanité, nos compatriotes ne veulent pas l'entendre. Et nous-mêmes, tout chrétien que nous sommes, nous ne voulons pas l'entendre aussi parfois. Nous préférons croire en un Dieu qui nous aime tel que nous sommes. Nous avons quand même quelques avantages sur notre carte de fidélité à faire valoir devant Dieu. Nous préférons ce Dieu-là plutôt qu'un Dieu qui constate notre échec à nous purifier nous-mêmes. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le diagnostic biblique est formel, c'est Paul qui dit ça dans l'Épître aux Romains chapitre 3, verset 23. Le problème de fond est en nous. L'orgueil, l'égoïsme du cœur humain est la source de l'impureté qui règne en nous et par conséquent dans notre monde. Voilà pourquoi le monde ne tourne pas rond, ma petite fille. Quand Jésus parle du cœur, il pense à tout notre être intérieur, c'est pas l'organe, le cœur, hein, qui palpite. C'est-à-dire là où nous ressentons, mais aussi là où nous pensons, là où nous décidons notre manière de choisir, notre mentalité. Or, notre mentalité, notre cœur est entaché par le péché, si profondément que tout en nous est contaminé. Nous avons en nous la volonté de pécher, c'est-à-dire de nous opposer à Dieu. Nous ne sommes pas seulement victimes du mal, mais aussi acteurs du mal. Alors, nous sommes parfois victimes du mal des autres à notre égard, n'est-ce pas? Et ce mal, nous n'en sommes pas coupables. Mais parfois, c'est nous qui faisons du mal aux autres. Et là aussi, nous sommes les premières victimes du mal que nous commettons, car nous perpétuons ce cercle de la violence. Face à ce mal, il n'existe aucun remède extérieur. Il faut rien de moins qu'un changement de cœur. Alors, pas une greffe cardiaque. Nous n'avons pas besoin du cœur d'un individu sain ou pur. Nous avons besoin d'une transformation radicale de notre manière de penser et de vivre. Essayer de nettoyer notre impureté spirituelle de l'extérieur vers l'intérieur, c'est voué à l'échec. Or, c'est ce que tout être humain tente de faire, sans Dieu. Jésus nous propose le remède inverse. Il préconise de nettoyer notre impureté de l'intérieur vers l'extérieur. Ce sera le troisième et dernier point ce matin. Après avoir vigoureusement contesté la pratique religieuse des scribes et des pharisiens, Jésus s'attaque, si je puis dire, à la mentalité des disciples. Les voilà qui réapparaissent dans le récit en venant eux aussi interroger Jésus, verset 17. Alors, de nouveau, Jésus les bouscule un petit peu. Il leur dit, verset 18, « Ainsi, vous aussi, vous ne comprenez pas. Ne saisissez-vous pas ce que je veux dire. De tout ce qui vient du dehors et qui pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. » Autrement dit, vous aussi, vous pensez comme les scribes. Et Jésus, au verset 19 et suivant, précise sa pensée. Il est tentant pour les disciples, même pour les disciples, j'ai envie de dire, de croire qu'ils peuvent honorer Dieu de leur bouche et en même temps vivre comme bon leur semble. C'est cette hypocrisie que Jésus dénonçait chez les pharisiens au verset 6 et 7 en citant le prophète Ésaïe. Les disciples eux-mêmes ne sont pas à l'abri de tomber dans l'hypocrisie et doivent veiller sur leur manière de penser. C'est du cœur que vient l'impureté. Verset 21. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à l'immoralité par l'immortalité, l'immoralité, le vol, etc. Malgré tous nos efforts pour être purs, bons, propres, nous ne parvenons pas à régler nous-mêmes le problème de notre cœur pécheur. Or, dans notre texte, Jésus fait une déclaration étonnante que Marc n'a pas manqué de relever. Lui qui fait peu de commentaires, si on compare avec Matthieu, Luc ou Jean, qui font souvent des commentaires, Marc fait très peu de commentaires, et il en fait ici. Donc c'est quelque chose d'important. Marc note que Jésus déclare pur tous les aliments. Verset 19. Une fois que Jésus a fini son discours, Marc note, il déclarait, il c'est Jésus, hein, donc c'est Marc qui parle, l'auteur, il déclarait par là même que tous les aliments sont purs. Question, comment Jésus peut-il faire une telle déclaration sans transgresser la loi de Dieu, dont il vient de rappeler, quelques versets auparavant, tout le sens et la pertinence? La réponse est évidemment dans la suite du récit de l'évangile. C'est parce que Jésus a accompli une fois pour toutes, par sa mort à la croix, la purification que nous ne pouvions pas effectuer nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que Jésus déclare obsolète toutes les règles qui concernent la pureté rituelle. Vous avez entendu parler de l'obsolescence programmée. Plutôt que de fabriquer des objets durables et réparables dans le temps, certaines entreprises programment une durée de vie plus courte pour certains objets afin que nous les consommions davantage, pour que nous les rachetions. Hein ? Si votre four à micro-ondes ne vous dure que 5 ans, eh bien vous rachetez un four à micro-ondes parce que vous en avez besoin, ou vous pensez que vous en avez besoin, et vous en rachetez un. D'accord ? Apple France est visée depuis début 2018 par une enquête pour obsolescence programmée et tromperie parce que le géant américain a reconnu avoir volontairement bridé ses anciens iPhones pour préserver leur batterie. J'ai trouvé ça dans un article du magazine Capital sur Internet, un article qui datait du 9 janvier 2018. Eh bien, ces lois de pureté de l'Ancien Testament, elles étaient elles aussi en situation d'obsolescence programmée, jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Jésus est venu, ces règles ont donc été accomplies une fois pour toutes à la croix. Ces règles qui avaient pour fonction pédagogique de rappeler tous les jours aux Israélites leur impureté spirituelle. Et le témoignage de notre ami le rabbin confirme cette démarche. Et tous les rituels que nos amis juifs aujourd'hui font parce que ils veulent plaire à Dieu, parce qu'ils veulent être purs devant Dieu, parce qu'ils ont conscience de leur impureté spirituelle. Ces règles, nous disons, nous chrétiens, qu'elles ont atteint leur but et qu'elles n'ont plus lieu d'être pratiquées. Aucune de ces règles ne pouvait déjà, à l'époque, purifier le cœur du peuple. Mais les rituels de lavage, par exemple, rappelaient la nécessité d'une purification du cœur. On se lavait le corps pour se rappeler que le cœur aussi avait besoin d'être purifié, et pas seulement le corps. Or, la pureté, c'est ce que Dieu nous donne à la croix. Et c'est ce qui manque à nos amis juifs aujourd'hui. Ils ont manqué leur Messie. Et lorsque nous comprenons, Jésus dit, écoutez-moi tous et comprenez. Faites fonctionner votre cerveau. Jésus dit ça à la foule, verset 14. En comprenant donc que Jésus, lui, qui était parfaitement pur, a pris sur lui la condamnation de nos impuretés. En comprenant que nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes, mais qu'en Jésus, nous sommes purifiés de tous nos péchés. En comprenant que nous n'avons plus besoin de prouver à Dieu notre pureté parce que nous avons reconnu notre échec à nous purifier nous-mêmes, nous accueillons alors la grâce de Dieu qui seule peut changer notre cœur, notre mentalité, notre manière de vivre. Si nous confessons nos péchés, dit l'apôtre Jean, Dieu est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute impureté. 1 Jean chapitre 1 verset 9. C'est Dieu et Dieu seul qui nous purifie de l'intérieur vers l'extérieur. Et une fois que nous avons été purifiés intérieurement par l'Esprit de Dieu qui nous amène à la repentance, nous pouvons alors faire tous nos efforts pour témoigner de notre changement de vie. Trois choses pratiques pour terminer. Ce témoignage de changement de vie, c'est ce que nous déclarons au moment de notre baptême. Nous déclarons que nous n'avons plus rien à prouver à Dieu, si ce n'est que nous avons effectivement changé de vie et que désormais nous marchons dans les pas de Jésus-Christ. Nous demandons le baptême parce que nous avons compris que nous ne pouvons pas nous purifier nous-mêmes, mais que cette pureté nous est offerte alors que nous ne la méritons pas. Nous demandons le baptême comme un signe d'engagement à honorer cette pureté que nous avons reçue de la part de Dieu par la foi en Jésus. Deuxième chose, ne faisons pas des règles de pureté de l'Ancien Testament une nouvelle tradition chrétienne, comme ces pharisiens faisaient de leurs règles des traditions qui se transmettaient de génération en génération. Comme si pour être un bon chrétien aujourd'hui, il faudrait respecter les règles de la loi juive. Jésus déclare pur tous les aliments. Vous avez entendu ? Amen. Jésus déclare pur tous les aliments. Amen. Si vous ne voulez pas manger de porc, libre à vous, les amis. Mais n'en faites pas une règle de pureté spirituelle. Rappelez-vous ces paroles de l'apôtre Paul aux Colossiens. Au chapitre 2 et au verset 16. Colossiens 2, 16. Ne vous laissez juger par personne à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez ou au sujet de l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir, l'obsolescence programmée, n'est-ce pas ? La réalité est en Christ. Et un peu plus loin, au verset 20, il ajoute « Vous êtes morts avec le Christ à tous ces principes élémentaires qui régissent la vie de ce monde. Cherchez à se purifier par soi-même. Tout ce que les gens autour de nous font et que nous faisions avant de connaître Jésus. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre « Ne prends pas ceci, ne mange pas de cela, ne touche pas à cela. » Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage ? Jésus dit qu'on les évacue aux toilettes. Voilà bien des commandements et des enseignements purement humains. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion vigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettissement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur. Sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Toutes ces règles que nous lisons dans l'Ancien Testament gardent leur importance pédagogique pour nous enseigner au sujet de la sainteté de Dieu et de notre impureté à nous. Mais elles n'ont pas, pour nous chrétiens, de pouvoir pour nous améliorer spirituellement. Toute pratique alimentaire, manger de tels aliments, ne pas en manger, jeûner, etc., tout cela n'a aucune valeur de performance spirituelle et n'augmente en rien l'amour de Dieu à notre égard.
Amen.
Paul dit aux Corinthiens, chapitre 8, verset 8, « Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. » Les lois rituelles de l'Ancien Testament ne sont donc pas à observer à la lettre aujourd'hui, pour nous chrétiens, mais à méditer pour nous rappeler que nous avons besoin d'un sauveur et que ce sauveur, ce n'est pas nous, mais le Messie qui était attendu par les Juifs et qui est venu il y a 2000 ans mourir pour notre humanité pécheresse. C'est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, Marc chapitre 1, verset 1. Et puis dernière chose, si nous avons encore ce matin un sentiment d'impureté, ce sentiment peut-être commun à tous les hommes pécheurs, voilà le remède que Dieu nous rappelle ou nous offre ce matin. Regardons à Jésus, l'homme parfaitement pur, lui qui a porté à la croix nos impuretés, nos échecs, nos fautes, afin de nous réconcilier avec le Père parfaitement pur. Laissons nos impuretés au pied de la croix et appuyons-nous sur la grâce de Dieu pour poursuivre notre chemin à la suite du Christ. Nous allons prier. Seigneur, sois béni pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous en Jésus-Christ. Tu sais que le monde ne tourne pas rond. C'est toi qui as créé ce monde et tu sais pourquoi le mal est là. Tu vois comment ce mal s'attache à nos cœurs au plus profond de nous-mêmes et nous joue si souvent des tours et fait que nous plions devant lui si souvent. Seigneur, nous avons besoin ce matin et pour cette semaine de ta grâce, de ton amour immérité, mais précieux. Seigneur, renouvelle nos forces physiques et spirituelles pour que nous puissions comprendre mieux encore quel sauveur merveilleux nous possédons. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Que cela soit une réalité concrète dans nos vies cette semaine. Amen.
Quel sauveur merveilleux.